Chapitre 30. La salle de réunion de la NOA est éclairée par la lumière vive des 8 néons. Après le rapport de Saga, Manvir les informe de la décision du directeur de la police départementale de ne pas communiquer avec les médias tant que le procureur n'a pas donné son feu vert. La région de Bergslagen tiendra une conférence de presse demain, mais sans mentionner l'implication de la NOA. Greta boit un café noir en plissant les sourcils. Elle porte un pantalon à rayures et un chemisier en soie bleu glacier de la même couleur que ses iris. Peter est vêtu d'un jean et d'un t-shirt bleu foncé. Il est adossé à sa chaise, le menton froncé et les bras croisés sur la poitrine. « On reprend ?» dit Greta. « Commencez par le moment où vous parliez à l'enfant sur le tas de compost.
Lorsqu'on a entendu le coup de feu en provenance de la maison, on est revenu en courant à travers la forêt. » C'est au moment où on arrivait à l'arrière de la remise que la deuxième détonation a retenti,
explique Juna en retroussant les manches de sa chemise. Saga prend le relais et décrit le collègue mort au milieu des fougères, une hache plantée dans la nuque. Greta pousse un profond soupir, et Manvir marmonne un « mon Dieu » avant d'aller se poster dans son coin, dos à eux. « Je suis entré dans la maison », poursuit Saga. J'ai trouvé Ida Anderson dans le couloir avec un fusil dans les mains. Je l'ai désarmée, mise à terre, et je lui ai passé les menottes dans le dos. C'est à ce moment-là que j'ai vu la deuxième femme, Camilla Bowman, assise sur l'autre collègue des Moon Force, avec un couteau à la main en s'apprêtant à le castrer.
Mais ça n'a pas eu lieu, si j'ai bien compris, dit Peter en se raclant la gorge.
Juna est arrivée à temps par l'autre côté, dit Saga en faisant tressauter une de ses jambes.
Et que s'est-il passé? Demande Greta en se tournant vers Juna.
Juna se revoit courir le long de la maison, son arme pointée vers l'avant, s'accroupissant dès qu'il passait sous les fenêtres et ralentissant au fur et à mesure qu'il approchait de l'angle de la façade. De la forêt environnante ne lui parvenait que le bruissement des arbres agités par le vent et le chant triste d'un merle. Une gouttière rouillée gisait dans l'herbe à côté du mur de la maison. Après avoir rapidement jeté un regard par-dessus son épaule, Juna avait continué à progresser en silence. L'air sentait l'essence, la terre humide et l'herbe. Au moment où il avait atteint l'angle de la maison, un puissant grondement avait retenti. C'était une tondeuse dont le cordon de démarrage s'était pris dans le moteur. Un nuage de gaz s'en échappait. En voyant Juna, la jeune femme qui la poussait avait reculé de quelques pas dans l'herbe, s'était baissée et avait ramassé une faux posée par terre. Juna s'était approchée d'elle tout en gardant son arme pointée vers le pignon de la maison, la porte arrière et le rideau froissé à la fenêtre.
« Repose la faux au sol !»
lui avait-il ordonné en éteignant la tondeuse à gazon avec son pied. Elle s'était immobilisée et l'avait fixée. C'était la femme aux cheveux blonds emmêlés à qui ils avaient parlé un peu plus tôt.
« Je vais m'approcher pour récupérer la faux »,
lui avait-il dit en levant sa main libre dans un geste rassurant.
« Me touche pas »,
avait-elle murmuré, l'air terrifié.
« Je vous promets de... »
Soudain, elle avait effectué un mouvement vif avec la faux. La lame avait suivi la torsion de son corps et avait fendu l'air devant elle. Juna avait eu le temps de se pencher en arrière et de voir la lame passer tout près de son ventre. Dans un sifflement, celle-ci avait tranché les branches qui pendaient à côté de lui. Il s'était alors précipité sur elle, avait donné un coup de pied dans le creux de son genou au moment où la lame s'enfonçait dans le tronc d'un bouleau. Il avait ensuite renversé la jeune femme dans l'herbe, pointant toujours la maison avec son arme, puis il l'avait ramenée vers lui en la tirant par une jambe. L'outil était resté planté dans l'arbre. Après ça, il lui avait attaché les pieds à la tondeuse et avait couru jusqu'à la porte arrière en ignorant les cris de la femme qui l'accusait d'avoir voulu la violer. Juna avait ouvert la porte, s'était effrayé un chemin à l'intérieur de la maison et avait traversé une salle de bain. Ses yeux s'étaient posés sur une baignoire, des toilettes sans couvercle, un lavabo et une armoire tachée. Il avait enjambé une serviette ensanglantée qui gisait sur le sol et avait ouvert une autre porte étroite qui débouchait sur un couloir. Une grande femme en soutien-gorge blanc était penchée au-dessus de Magnus avec un couteau à la main. Il saignait abondamment d'une blessure par balle à la cuisse. Juna avait visé l'épaule de la femme, mais n'avait pas pu tirer car Saga était dans la ligne de mire. Grâce à ses années d'entraînement au combat rapproché, Juna n'avait pas eu besoin de réfléchir très longtemps. Compte tenu de l'urgence et de la configuration de l'espace, un coup de pied puissant était sa seule option. Il s'était donc élancé. Il avait frappé avec le dessous de son pied au milieu de la poitrine en y mettant toute sa force. La grande femme avait été projetée en arrière et était restée suspendue en l'air un court instant avant d'atterrir sur les omoplates. Saga en avait profité pour se jeter sur elle, avait posé son pied sur son poignet et avait tiré. Une forte détonation avait résonné dans le couloir. Et une fleur de sang s'était déployée sur le parquet sous l'épaule de la femme.
Juna, à quoi ça ressemblait de ton côté ? Demande encore Greta.
J'ai désarmé une femme avec une faux. Je suis entré par la porte de derrière et Saga et moi avons arrêté Camilla Bowman et Suzanne Yelm. Résume-t-il brièvement. Manvir quitte son coin, revient à la table, déboutonne sa veste et soulève le bas de son pantalon avant de s'asseoir.
Nous ne pensons plus que Suzanne ait un lien direct avec notre tueur en série,
déclare Saga en froissant un sachet de pastilles vides. Ce n'est qu'après cette arrestation que son ex-mari a osé nous en dire plus sur les menaces que Suzanne avait proférées à son encontre, poursuit Juna, ce qui lui donne un alibi. Elle harcelait son ex-mari de différentes manières, notamment en restant postée des heures durant devant ses fenêtres. Et c'est ce qu'elle faisait au moment où Werner et Margot ont été assassinés.
« Et pour vous, ça tient ?» demande Manvir. Son ex-mari la photographiait et notait le moindre de ses mouvements dans un agenda. Répond Saga. « Les heures exactes, tout. »
Lorsque Suzanne a été libérée, elle l'a appelée malgré l'ordonnance restrictive, prétendant qu'elle avait changé, dit Juna. Elle a demandé à voir les enfants. Elle voulait qu'il les amène au centre de yoga juste pour une journée, ou même pour quelques heures dans un premier temps.
« Waouh !» murmure Peter.
Manvir passe la main sur son étroite cravate noire. Peter se penche en arrière et se gratte le ventre. Une ombre passe sur les rideaux froissés devant la vitre donnant sur le couloir. Le bruit des roues grinçantes d'un chariot s'éloigne progressivement.
« Je peux te demander quelque chose ?»
se risque Greta en avalant une gorgée d'eau.
« Je n'ai toujours pas compris pourquoi vous étiez à la recherche de Suzanne Yelm. On n'en avait absolument pas discuté ensemble. »
« Elle est l'une des rares personnes à avoir été exposée à l'influence de Yorek et à être encore en vie, » explique Juna.
« Et j'ai appris qu'elle avait été libérée de prison quelques semaines avant que je reçoive la première carte postale, » ajoute Saga. Elle déteste la police, nous reproche d'avoir détruit sa vie, et surtout, elle déteste Juna. Ça ne répond pas à ma question. Pourquoi avez-vous commencé à enquêter sur Suzanne Yelm?
J'ai eu un tuyau d'une source en qui j'ai confiance,
dit Saga.
Qui ça?
Demande Greta. Saga croise le regard de Greta sans bouger.
Je ne peux pas le dire.
Juna? Je ne sais pas. Je me suis juste dit que la piste tenait la route, répond-il.
Saga, tu sais que tu n'es pas en service opérationnel, que tu n'as pas de droit en tant que policière.
Bien sûr.